Chapitre 34. Ce jour-là, au matin, chacun trouva sous sa porte un petit carton qui embaumait l'essence de rose. Il était écrit, à l'encre violette et très élégamment, la phrase suivante. Ce soir, 7 heures, à l'auberge Schloss, portraits et paysages. Plus d'un l'examina dans tous les sens, ce carton. Le tourna, le retourna, le respira, lut et relut les quelques mots. À 7 heures du matin, l'auberge était déjà noire de monde. Des hommes, que des hommes évidemment, mais dont certains étaient envoyés aux nouvelles par leurs femmes. Schloss avait du mal à servir tant il y avait de bras tendus et de verres vides. « Dis donc, Schloss, qu'est-ce que c'est que ce mardi gras ?» Au coude à coude, chacun sifflait du vin, du choric, de la bière. Dehors, le soleil tapait déjà fort. On se pressait les uns contre les autres et on tendait l'oreille.
« Il est tombé sur le crâne, ton pensionnaire.
Qu'est-ce qui manigance ?
C'est du schaltkliche ou quoi ?
Mais raconte, Schloss, dis-nous !
Il va traîner encore longtemps ici, l'Olibrius ?
Il se croit où, avec son carton qui cocotte ?
Nous prend pour des éphèbes ?
C'est quoi, des éphèbes ?
Bah, je sais pas, moi. C'est pas moi qui ai dit ça.
Mais bon sang, Schloss, réponds ! Dis-nous quelque chose !
C'était pire qu'un mitraillage, les questions. Et Schloss, il les recevait comme des balles inoffensives. Elle lui amenait juste un petit sourire plein de malice sur sa face épaisse. Il ne disait rien, il laissait monter la tension. C'était bon pour son commerce, tout ça. Parler, ça donne soif.
Mais tu vas tout de même pas nous laisser dans le silence jusqu'au soir, bordel !
Il est là-haut ? Poussez-vous !
Alors, Schloss ?
Ça y est, vos gueules, Schloss va parler !
Chacun retint son souffle. Les deux ou trois qui ne s'étaient rendus compte de rien et continuaient leur aparté furent vite rappelés à l'ordre. Tous les regards, dont certains commençaient à être bien troubles, convergèrent vers l'aubergiste, qui prenait son temps et faisait un peu son théâtre.
« Puisque vous insistez, je vais vous dire !»
Une grande rumeur heureuse et soulagée ponctua ses premières paroles.
« Je vais vous dire tout ce que je sais, » continua Schloss.
Les coups se dévissèrent et se tendirent le plus possible vers lui. Il claqua son torchon sur son comptoir, posa ses deux mains à plat dessus, puis regarda dans le plus grand silence, longuement, vers le plafond. Tout le monde l'imita, et si quelqu'un était entré à ce moment-là dans l'auberge, il se serait sans doute demandé ce que faisait une quarantaine d'hommes, muets, la tête tournée vers un plafond aux poutres noires, crasseuses et enfumées, le regard les fixant fiévreusement comme pour leur poser une grande question.
« Ce que je sais, »
reprit Schloss sur le ton de la confidence, d'une voix très basse, et chacun buvait ses paroles comme la plus précieuse des eaux de vie.
« C'est que, ma foi, je ne sais pas grand-chose. »
De nouveau, une grande rumeur, mais cette fois pleine de déception, et aussi d'un peu de colère, et aussi des poings abattus sur le comptoir, des noms d'oiseaux et tout le reste. Schloss leva les bras pour essayer de calmer tout le monde, mais il dut forcer la voix pour qu'on l'entende.
« Il m'a juste demandé la permission d'avoir la salle, à partir de 6 heures, pour préparer. »«
Préparer quoi ?
Je ne sais pas, moi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il paie à boire à tout le monde. »
Les rires reprirent. La perspective de se rincer la gorge à moindre frais avait suffi à balayer toutes les interrogations. Peu à peu, l'auberge se vida, et moi aussi j'allais sortir lorsque je sentis une main sur mon épaule. C'était Schloss.
« Tu n'as rien dit, Brodeck. »
« J'ai laissé parler les autres. »
« Tu n'avais pas de questions à poser, toi. »
« Si tu n'avais pas de questions, c'est peut-être parce que tu avais les réponses. » « C'est peut-être parce que tu es dans le secret. »
Et pourquoi j'y serais ?
Je t'ai vu l'autre jour monter dans sa chambre, y rester des heures. Il a bien fallu que vous vous en racontiez des choses pour occuper tout ce temps. Schloss avait son visage tout près du mien. Il faisait déjà si chaud à cette heure que sa peau suintait de toutes parts comme un morceau de lard posé sur une poêle brûlante. Laisse-moi tranquille, Schloss, j'ai affaire. Tu ne devrais pas me parler comme ça, Brodeck. Tu ne devrais pas. À cette époque, j'avais pris la phrase comme une menace. Mais depuis l'autre jour où tout larmoyant, il est venu s'attabler face à moi pour me parler de son petit mort, je ne sais plus. Les hommes sont parfois si maladroits qu'on les prend pour le contraire de ce qu'ils sont vraiment. En allant à l'auberge, je n'avais pas appris grand-chose sinon que Landerer avait réussi, grâce à ses petits cartons parfumés, à braquer un peu plus toutes les attentions sur lui. Il n'était pas encore 7 heures, et déjà, il n'y avait plus un souffle d'air. Dans le ciel, les hirondelles semblaient épuisées et leur vol se faisait lent. Un nuage, très petit et presque transparent, qui prenait la forme d'une feuille de houx, flânait seul et très haut. On n'entendait même pas les bêtes. Les coqs n'avaient pas chanté, les poules se tenaient coites et immobiles, à la recherche d'un peu de frais, lovés dans des trous poussiéreux creusés dans la terre des basses-cours. Les chats somnolaient dans l'ombre des portes cochères, couchés sur le flanc, les pattes étirées et la langue pointée entre leurs gueules entrouvertes. Quand je suis passé près de la forge de Gott, j'ai entendu un grand remue-ménage à l'intérieur. Cela faisait un bruit de tous les diables. C'était Gott qui faisait un peu d'ordre. Il m'aperçut, me fit signe de m'arrêter et vint vers moi. La forge était au repos. Aucun feu n'y brûlait. Et Gott était lavé, rasé, peigné. Il n'avait pas son éternel tablier de cuir et ses épaules nues, mais une chemise propre, un pantalon haut et des bretelles.
« Qu'est-ce que tu dis de tout ça, Brodeck ?»
J'ai sans trop de risque haussé les épaules car je ne savais pas vraiment de quoi il voulait parler. De la chaleur, de Landerer, du petit carton à l'eau de rose ou d'autre chose encore.
Moi, je dis que ça va exploser d'un coup. Et ce sera violent, tu peux me croire.
Gott avait parlé en serrant les poings et les mâchoires. Sa lèvre fendue bougeait comme un muscle. Et sa barbe rousse faisait songer à un buisson ardent. Il me dépassait de 3 têtes et dut se pencher pour me parler à l'oreille.
« Ça ne peut plus durer. Je ne suis pas le seul à le penser. Toi qui es allé étudier, tu en sais plus que nous. Comment ça va finir ?»«
Je ne sais pas, Gott. Il faut attendre ce soir, on verra bien. »«
Pourquoi ce soir ?»«
Tu as eu le carton, comme nous tous. À 7 heures, on sera fixé. » Gott se recula et m'examina sous toutes les coutures, comme si j'étais devenu fou.
« Pourquoi tu me parles de carton quand je te parle de ce foutu soleil? Ça fait 3 semaines qu'il nous grille le crâne. Je ne peux même plus travailler tellement j'étouffe. Et toi, tu me sors une histoire de carton. »
Une plainte venue du fond de la forge nous fit tourner la tête. C'était Lone Meist, plus maigre qu'un clou, qui s'étirait et bâillait.
C'est encore lui le plus heureux, dis-je à Gott. Je ne sais pas si c'est le plus heureux, mais en tout cas, c'est sûr que c'est le plus fainéant.
Et comme pour donner raison au forgeron, chez qui il avait élu pour l'instant domicile, le chien posa sa tête sur ses 2 pattes avant et se rendormit tranquillement. Ce fut une journée de plus dans cet été qui nous cuisait à grand feu. Mais une journée particulière, qui fut comme évidée de l'intérieur. Un peu comme si son centre et ses heures n'avaient aucune importance et que seule la soirée valait la peine qu'on y pense, qu'on l'attende, qu'on se tende vers elle. Je me souviens que ce jour-là, revenu de l'auberge, je ne suis plus sorti de la maison. J'ai travaillé à mettre de l'ordre dans toutes les notes que j'avais prises depuis des mois au sujet de l'exploitation de nos forêts, du cubage de toutes les parcelles, des coupes faites et à faire, des renouvellements, des semis, des futaies qu'il conviendrait de nettoyer l'an prochain, de la répartition des affouages, du retournement des dûs. Je m'étais installé dans la cave pour y trouver un peu de frais, mais même là, dans ce lieu où d'ordinaire des murs suintent une sueur glacée, je n'avais trouvé qu'un air poisseux et lourd, à peine un peu plus tiède que dans les autres pièces. J'entendais, par moments, au-dessus de ma tête, les éclats de rire de Poupchette, que Fédorine avait placée toute nue dans une grande cuve en bois, pleine d'eau fraîche. Elle joua ainsi au petit poisson pendant des heures, sans se lasser, tandis que près d'elle, les mains posées à plat sur ses genoux, assise près de la fenêtre à travers laquelle elle ne regardait rien, Emilia psalmodiait son refrain mélancolique. Lorsque je suis remonté de la cave, Poupchette, séchée, frottée, toute rose, mangeait une grande assiettée de soupe claire, un bouillon de carottes et de cerfeuil.
« Partir, mon papa ! Partir !»
me lança Poupchette, comme je m'apprêtais à sortir. Elle se laissa tomber de sa chaise et courut pour se jeter dans mes bras.
« Je reviens vite,
lui dis-je. Je te ferai un baiser dans ton lit. Sois sage. »
« Sage ! Sage, sage !»
répéta-t-elle en riant et en tournant sur elle-même, comme si elle valsait. « Oh, petite Poupchette, certains te diront que tu es l'enfant du rien, que tu es l'enfant de la salissure, que tu es l'enfant engendré de la haine et de l'horreur. Certains te diront que tu es l'enfant abominable conçu de l'abominable, que tu es l'enfant de la souillure, enfant souillé, déjà bien avant de naître. Ne les écoute pas, je t'en supplie, ma petite, ne les écoute pas. Moi, je te dis que tu es mon enfant et que je t'aime. Je te dis que de l'horreur naît parfois la beauté, la pureté et la grâce. Je te dis que je suis ton père à jamais. Je te dis que les plus belles roses viennent parfois dans une terre de sanie. Je te dis que tu es l'aube, le lendemain, tous les lendemains. Et que seul compte cela qui fait de toi une promesse. Je te dis que tu es ma chance et mon pardon. Je te dis, ma Poupchette, que tu es toute ma vie. » Je refermai la porte en même temps que Goebbler refermait la sienne, et tous deux, nous fûmes tellement étonnés que nous regardâmes en même temps le ciel. Nos maisons sont naturellement sombres, elles sont taillées pour l'hiver, et même lorsqu'il y a grand soleil, on est souvent obligé d'y brûler une ou deux bougies pour voir. Je m'attendais, quittant notre obscurité sitôt passé le seuil, à retrouver ce grand soleil qui, depuis des semaines, composait notre immuable quotidien. Mais c'était comme si on avait jeté sur tout le ciel une immense et terne couverture d'un gris beige strié de traînées noirâtres. À l'horizon, vers l'est, les crêtes des Hornies disparaissaient dans cet épais magma métallique, bosselé de flegmons cotonneux, qui donnait l'impression suffocante de s'abaisser peu à peu et qui, tôt ou tard, finirait par écraser les forêts et le toit des maisons. Par endroits, des marbrures vives striaient la masse pâteuse et l'éclairaient fugacement d'une fausse lumière jaunâtre. Mais de ces éclairs avortés ou retenus ne naissait aucun fracas. La chaleur était devenue grasse et saisissait la gorge, comme le fait la main du criminel pour la broyer avec une rigoureuse sûreté. Une fois encore, en même temps, passé cette première stupeur, Goebbler et moi nous nous mîmes en marche, comme des automates, d'un même pas, et nous nous retrouvâmes, côte à côte, à cheminer ensemble sur la chaussée pulvérulente qui, dans cette étrange lumière, ressemblait à de la cendre de bouleau. L'odeur des crottes de poules et de leurs plumes flottait autour de moi, écœurante, corrompue comme celle des tiges pourries de vieilles fleurs oubliées des jours durant dans des vases. Je n'avais aucune envie de parler à Goebbler, et ses silences ne me dérangeaient pas. Je m'attendais à tout moment à ce qu'il entame la conversation, mais rien ne vint. Nous allions ainsi, muets, dans les rues, un peu comme lorsqu'on se dirige vers une église où un enterrement va être célébré, et que l'on sait que, face à la mort, tous les mots sont bien inutiles. Au fur et à mesure que nous approchions de l'auberge, des rues, des ruelles, des venelles, des porches sortaient des silhouettes qui nous rejoignaient, marchaient à nos côtés, elles aussi silencieuses. Peut-être d'ailleurs ce grand silence n'était-il pas dû à la perspective de découvrir ce qui allait nous être montré à l'auberge, mais à ce subit changement de temps, à cette chape de métal gras, dorénavant posée sur le ciel, et qui avait ensemencé cette fin d'après-midi d'une noirceur hivernale. Il n'y avait aucune femme dans cette rivière de corps qui grossissait de pas en pas. Nous n'étions que des hommes entre nous. Au village, il y en a pourtant des femmes, comme partout ailleurs, des jeunes, des vieilles, des jolies, des très laides, et qui savent et qui pensent. Ces femmes qui nous ont mis au monde et qui nous regardent le détruire, qui nous donnent la vie et qui ensuite ont tant de fois l'occasion de le regretter. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment, tandis que je marchais sans rien dire au milieu de tous ces hommes qui marchaient eux aussi sans rien dire, j'ai songé à cela, et j'ai surtout songé à ma mère, elle qui n'existe pas alors que j'existe, qui n'a pas de visage alors que j'en ai un. Parfois, je me regarde dans le petit miroir qui est au-dessus de la pierre à eau, dans notre maison. J'observe mon nez, la forme et la couleur de mes yeux, celle de mes cheveux, le dessin de mes lèvres, celui de mes oreilles, l'ombre de ma peau. Je cherche avec tout cela à composer le portrait de l'absente, celle qui un jour a vu le petit corps sortir d'entre ses cuisses, qui l'a pris contre son sein, qui l'a caressé, qui lui a donné sa chaleur et son lait, qui lui a parlé, qui lui a donné un nom, qui a souri sans doute, souri de bonheur. Je sais que ce que je fais est vain. Je ne parviendrai jamais à peindre ses traits, à les tirer de la nuit dans laquelle elle est entrée depuis si longtemps.